Record.
Silence, please.
Okay, number one and two, source 3350, control still 570, Fox 3350, cabin 4.
Good night, Bordeaux.
Number one APU's 3850, number two source 3500.
Go. Well, I didn't see that coming.
Evidently.
Chers amis du 88.1, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Good Night Bordeaux. Ce soir, c'est la troisième émission de cette saison et on se retrouve pour parler d'un instrument que tout le monde connaît bien, c'est la guitare. Bon, je vais pas vous faire un historique du truc, déjà parce que tout le monde sait de quoi on parle et surtout parce qu'on n'est pas chez Stéphane Bern ici. On a décidé de vous faire entendre de la guitare ce soir, point barre, de la guitare dans tous ses états, alors on y va et je serai en compagnie ce soir d'une équipe des plus avisées sur le sujet. J'aurai à mes côtés un guitariste, parce qu'il en faut bien un, c'est Lucien, salut.
Bonsoir, salut à tous.
Et j'aurai également Joris. Est-ce que tu es guitariste toi, Joris? Salut.
Tout le monde, j'ai essayé mais je ne suis plus guitariste. Donc depuis très longtemps.
Mais tu as un jour essayé.
J'ai un jour tâté de la guitare.
Un jour. Tu vas essayer de tâter le manche. Et Mélissa, bonsoir.
Bonsoir.
Et toi, est-ce que tu t'es essayé à la guitare?
Eh bien, j'ai essayé de tâter un peu de la guitare chez mes amis à plusieurs reprises. En fait, je pense que j'ai les doigts trop gros. Donc, je ne peux pas être guitariste. C'est un vrai truc, je vous assure.
Jamais les doigts trop gros.
Si, j'ai des doigts absolument énormes. D'ailleurs, regardez pas mes mains parce que vous n'avez pas remarqué avant. Donc, s'il vous plaît.
Mais alors, de manière plus générale, est-ce que la guitare, qu'est-ce que ça vous évoque? La guitare, c'est un instrument qui est extrêmement populaire, qui est dans la plupart des genres musicaux, qui est très lié au rock, qui est aussi présent dans le métal, aussi, qui est très lié au métal aussi, mais qui est très présent dans la musique classique, qui est présent dans le rap, qui est présent dans énormément de styles. Qu'est-ce que ça vous évoque? Lucien, peut-être
quelque chose d'extrêmement polyvalent, peut-être. Je pense que c'est pour ça que c'est populaire. C'est très très polyvalent. Tu peux jouer un peu tout avec de la guitare. Tu peux faire des trucs dans tous les styles, comme tu viens de le dire. Et je pense que c'est ça un peu qui le rend hyper populaire et commun à tous. Il y a le côté aussi. On a quand même un des pans les plus importants de la culture musicale du XXe siècle. C'est quand même les rockstars, même en dehors du rock. C'était quand même des personnalités jusqu'à la fin du XXe siècle assez impressionnantes. Ça a un peu disparu, même si ça s'est un peu développé ailleurs. Mais du coup, c'était un peu la personne avec sa guitare, quoi. Ça avait une aura de dingue, donc je pense que ça a un peu ce côté-là qui fédère.
Peut-être, Joris, Mélissa, vous avez peut-être une autre vision de la chose?
Moi, je trouve que c'est un peu l'instrument classique par excellence parce qu'il est très accessible et j'ai l'impression aussi, peut-être pour les gens qui sont peut-être pas aguerris en tant que musicien, que c'est peut-être un instrument plutôt facile à acquérir.
Je te le fais pas dire.
Et facile pour rentrer un peu dans la musique et qui, une fois quelques bases apprises, on peut tout de suite commencer à tâter et à prendre des chansons et à se lancer directement dans le bain. Donc pour moi, c'est un peu le classique incontournable, peut-être. Plus simple qu'apprendre le piano ou d'autres choses, et c'est peut-être aussi, ça rejoint ce que tu disais, c'est très populaire du coup.
C'est vrai qu'au niveau du solfège, au niveau de la composition du truc, le piano est très terre à terre au niveau du solfège. On est vraiment surtout sur le solfège harmonique, c'est vraiment le piano, faut apprendre le solfège en même temps que le piano, sinon on n'imite rien. Ou alors on apprend par cœur des schémas, on pourra pas trop s'en défaire.
C'est plus compliqué,
Et c'est plus compliqué de s'en défaire si on n'a pas le solfège, alors que la guitare, on peut l'apprendre complètement sans solfège. Il y a beaucoup
Est-ce
de
choses. Qu'on s'en serait pas la preuve vivante.
Je pense qu'on est tous les deux. Alors après, moi, je me suis soigné en cours de route. J'ai pas mal de cours de solfège, mais au début, effectivement, toi comme moi, on a commencé totalement sans solfège et on vit bien sans solfège. On apprend des schémas et on survit, on vit bien, on y arrive. Joris, peut-être, tu peux nous raconter un petit peu l'expérience.
Ça rebondit un peu sur tout ce que vous disiez, que c'est un peu. J'ai l'impression que c'est l'instrument phare, même historiquement. J'ai l'impression que ça fait des siècles qu'il y a toujours un truc qui ressemble plus ou moins à une guitare, et même c'est un truc qui transcende un peu les cultures. Chaque culture a un peu sa propre guitare. C'est ça qui est intéressant. Qu'on retrouve cet instrument un peu partout dans le monde. Donc il y a vraiment cet esprit de ça touche à tout et c'est vraiment polyvalent, comme tu disais, Lucien.
Tout simplement, pour faire la petite seconde de Stéphane Bern, parce que quand même il y en avait besoin, la guitare est un luth, tout simplement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va voir un luthier. Et en fait, la guitare est un genre de luth. En gros, t'as les luths, c'est les instruments à cordes qui est une grande famille. Et du coup, bah, une des parties des luths, c'est les guitares. Et c'est ce qui est resté le plus connu aujourd'hui et qui a survécu le plus longtemps.
Et on a d'ailleurs énormément de déclinaisons au final de la guitare, de ce qu'est la guitare. On a des guitares baritones, on a des guitares à 6 cordes classiques, on a des guitares à 7 cordes, à 8 cordes maintenant, à 9 cordes. On a la guitare basse aussi, même si les bassistes se fâchent un peu quand on leur dit que c'est une guitare qu'ils ont entre les mains. Ils sont très fiers d'avoir leur petite particularité à 4 cordes, mais ça reste une guitare. Il y a énormément, même en Amérique du Sud, il y a énormément de déclinaisons possibles, donc c'est quelque chose qui est très, très, très répandu. Et on va parler un petit peu de toutes ces déclinaisons-là. Mais moi, je vous propose qu'on commence avec un morceau que j'ai amené, parce que c'est encore une fois, c'est mon émission, donc c'est moi qui décide. Et on commence par du très, très classique de la guitare électrique. Il y a beaucoup de jeunes guitaristes qui se sont fait les doigts sur ce morceau-là, c'est Paranoid de Black Sabbath. On est sur du assez ancien, hein, si mes notes sont vraies, c'est de 1960. 10, et c'est le début de Black Sabbath avec Tony Iommi et Ozzy Osbourne, deux noms qui aujourd'hui font plus partie du musée que de la musique actuelle, mais voilà, ces deux-là à l'époque étaient en train de lancer ce qu'on appelle aujourd'hui le hard rock à pleine balle. Et je vous propose qu'on écoute ça, c'est Paranoid et c'est de Black Sabbath.
Passons la preuve que Dieu existe, si ce n'était pas le cas. je serai sinistre. Un jour je lui ferai rentrer sa Porsche dans les boyaux avec le petit livre rouge de Mao. Si ce neuf était toujours là, ça le ferait bien marrer. J'espère pour lui que là-haut y a pas la télé. Les gens passent la preuve que Dieu existe. Si ce n'était pas le cas, ce serait trop triste. Les gens passent la preuve que Dieu existe. Si ce n'était pas le cas, ce serait sinistre. Les gens passent la preuve que Dieu existe.
Les vents passent sans la preuve que Dieu existe sur Radio Campus Bordeaux. Vous êtes à l'écoute de Goodnight Bordeaux jusqu'à 23h. C'est Joris qui nous propose ce titre avec une pochette d'album qui va très bien, avec une tête d'autruche. Vraiment, c'est les vents passent dans toute leur splendeur.
Exactement, ouais. Les vents passent sans la preuve que Dieu existe, c'est le nom de l'album justement duquel est extrait ce morceau. C'est sorti en 2009. Pour moi, c'était important de vous faire partager un peu ce groupe que j'adore. C'est un groupe de punk français qui date... Alors, il s'est créé à la fin des années 80, ils ont été pas mal connus dans les années 90, ils sont fait le plus connaître avec leur single, ça vous dira sûrement quelque chose, Manuk Chao, il se moquait allègrement de lui, et Chirac en prison surtout.
Oui, on verrait bien Chirac en prison, ça avait fait beaucoup
de
bruit.
Ça avait fait pas mal de bruit. Pour moi, je voulais vous en parler parce qu'en fait, j'ai pensé au thème de cette émission, les guitares, j'ai un peu réfléchi par association d'idées. Je pensais guitare, donc comme le disait Lucien tout à l'heure, souvent on pense au rock en fait, donc c'est vraiment le style le plus général dans lequel il y a cet instrument, il est le plus mis en avant. Et je trouvais dommage que pour nous, même français, rock, souvent ça rime avec musique anglo-saxonne en fait. Et je trouvais dommage qu'on a des très bons groupes de rock en France. Moi, c'est que il y a par exemple Trust et pour le punk. Et souvent encore, en plus, on se dit, en France, des groupes de punk, non seulement on n'a pas trop de groupes de rock et en plus, le punk, il n'y en a pas du tout. Et il y a les vents passent. Et pour moi, c'était. Je trouvais ça génial parce que c'est un groupe, je trouve, depuis sa création, il fonctionne toujours avec des riffs hyper simples mais super efficaces. T'as beau écouter n'importe quel album, n'importe quelle chanson, ça tourne toujours là-dessus. Avec des paroles, il y a toujours énormément d'humour, il y a toujours énormément d'autodérision aussi. Vous avez entendu les paroles, c'est souvent très, très décalé, très perché. Ça manque pas des fois de mordant, on l'a vu tout à l'heure avec Chirac en prison. Parce que faut savoir, il y a Didier Vampas, du coup, le leader du groupe qui chante. Lui, c'est un mec qui faisait partie de la RATP, qui faisait les 3-8 toute sa vie. Il a jamais abandonné son travail, il a pris sa retraite il y a pas si longtemps. Et pour lui, c'était important d'être indépendant et pouvoir dire tout ce qu'il voulait en fait dans ses chansons. Et il y a cette espèce d'esprit un peu ouvrier qui dénonce un peu dans ses chansons, et je trouve ça un peu génial de quand on voit le paysage musical français le plus connu qui est très aseptisé, quand t'entends Didier Vampas qui dit absolument tout ce qu'il veut, je trouve ça génial. D'ailleurs, il y a une petite anecdote, tout à l'heure on en parlait avec Lucien en off de leur maison de disques, parce qu'à un moment ils ont été chez Universal, et pour la petite anecdote, il y a Universal un jour qui avait dit au Vampas, donc à Didier Vampas notamment, ça serait bien que vous fassiez un featuring avec Kali, parce que ça aurait du succès, et en fait lui s'est dit mais ils nous prennent pour des cons, ils ont pas du tout compris l'enjeu de notre musique. En fait, ils ont dit ok, pas de soucis. Ils leur ont fait croire que oui. Et à la place, ils ont sorti un single qui s'appelait Universal. Et en fait, ils leur disaient cash en chanson, il y aura pas de single, fais pas la gueule. Universal, fais pas la gueule, il y aura pas de single. Et en fait, ils arrêtaient pas de se foutre d'eux. Et tu vois, c'est un peu l'esprit des Vampas. Et voilà, donc pour moi, c'est simplicité mais efficacité à toute épreuve, quoi.
Et surtout qu'il s'était retrouvé par un mouvement assez rocambolesque à être candidat à l'Eurovision à un moment.
Je ne savais pas ça.
Et leur chanson, c'était Faut voter pour nous. Voilà, c'était vraiment les mecs, c'était brut de décoffrage.
C'est génial.
On s'emmerde même pas à faire une chanson qui va sortir de l'ordinaire, qui va attirer. Non, c'est Faut voter pour nous. Juste voter pour nous. Et puis après, le reste, on s'en occupe. C'était vraiment très, très fort. Et je vous propose, alors là, on est complètement, à l'opposé de ça.
À la racine.
Musicalement, on revient à la racine, bien avant le punk, bien avant tout ça. On revient aux racines de ce qu'est la guitare électrique, avec quelqu'un qui a donné son nom d'ailleurs à un modèle de guitare électrique extrêmement fameux, c'est Les Paul.
Et quel nom d'ailleurs, il faut s'appeler quand même Les Paul. Peut-être un personnage parfaitement à part dans le monde de la musique, qui est ce producteur, guitariste, on va commencer par guitariste, musicien et producteur de génie aux États-Unis, qui avec sa femme de l'époque, pendant leur divorce dans les années 50-60 je crois, Marie Ford, faisait un duo musical depuis à peu près les années 40. Alors Les Paul, c'est un musicien de carrière, hein. Je pense qu'il a fait passer sa vie à faire de la musique pour des gens, pour des artistes, très très vite dans le grand show business américain de la musique des années 40-50. Mais surtout, arrivé aux années 50, il a fait ce duo avec sa femme et ils ont eu énormément de succès, d'autant qu'avec l'argent qu'il avait, ça a été un des premiers au monde à se créer son home studio. Et en fait, dans son garage, il créait ses propres tables de mixage, etc. Il organisait tout ça. Et du coup, il produisait lui-même tout seul sa musique. Alors imaginez les pépettes, hein, parce que du coup, à l'époque, dans les années 50, avec le fric que ça brassait quand tu produisais toi-même ta musique, tu t'en sortais bien. Et il a inventé notamment tout un tas de sons. Et en fait, toute la production actuelle de musique vient à peu près en grande partie de plein de choses inventées par Les Paul et ses techniciens. Et donc, la guitare, j'en parle pas, évidemment. Les Paul, qui est devenue une marque de guitare. Des modèles à son nom, à son effigie. Un son, en fait, un pan entier du son qui a été organisé et travaillé dans la lignée de ce qu'avait inventé Les Paul. Et ça commence avec des chansons comme celle qu'on va écouter, The World is Waiting for Sunrise. On est en 1951. Écoutez la production, écoutez, là je vous sors en plus directement ce que donnait à peu près le master original, même si c'est sur piste donc ça grésille un peu, mais écoutez on en entend partout. On est quand même en 51, il n'y a pas la stéréo partout encore, on entend toutes les guitares, les subtilités, travaille sur les aigus, enfin vraiment c'est un ingénieur de son qui a minimum 40 ans d'avance, 50 ans d'avance. C'est assez incroyable. On écoute ça tout de suite. Dear one, the world is waiting for the sunrise. Every rose is covered with dew. And while the world is waiting for the sunrise, my heart is calling.
Et c'est en 1969, dans une foule en délire, dans un endroit désormais entré dans la légende du rock à Woodstock, que Jimi Hendrix a joué ce morceau que vous venez d'entendre, Fire. C'est, pour l'anecdote, c'est un des premiers morceaux que j'ai appris à la guitare. Alors bien sûr, j'ai appris sur la version album, qui est beaucoup plus lente, et j'ai pas appris les solos tout de suite. Faut pas déconner non plus. Mais la partie avec les accords qu'il y a au début est extrêmement simple, et pour commencer, avoir un petit peu de groove, de feeling, du rythme, tout ça, ça se joue plutôt pas mal, et ça donne un rendu assez rapidement, plutôt sympathique. Et oui, on pouvait pas non plus ne pas parler de Jimi Hendrix dans une émission sur la guitare. Comme on disait en off, personnellement, je trouve que c'est un guitariste surcoté sur certains aspects. Ça reste un très très bon guitariste, un mec qui a complètement changé la vision de la guitare, mais il est pas non plus le dieu et le génie qu'on lui prête trop souvent à tort et à travers. Il y a aussi d'autres guitaristes à l'époque qui valaient leur pesant à peu près sur la même époque. Il est un poil plus jeune, mais tout de même Jeff Beck, qui est de la même époque à peu près, a apporté à peu près autant à la guitare, si ce n'est plus. Et on parlait de Les Paul il y a quelques instants, dans un style tout autre, a aussi apporté énormément dans les mêmes époques. Donc Jimi Hendrix, c'est très bien, mais faut aussi écouter les autres et pas penser que c'est lui seul le dieu absolu de la guitare. Je propose qu'on aille sur un autre nom assez connu, ça c'est toi Lucien qui nous le propose, c'est Jeff Buckley avec son titre Just Like a Woman.
Alors tout simplement, Jeff Buckley, peut-être un nom qu'on connaît souvent quand on passe par la période collège-lycée et qu'on écoute les reprises Alléluia, des choses comme ça, mais au final on oublie assez souvent que Jeff Buckley c'est quand même un mec qui, de son vivant, n'avait pas non plus un succès fou, c'est plus un succès culte par la suite et après sa mort prématurée quand même, puisqu'il est mort assez jeune en 97 ou 18 je crois. Toujours est-il que Jeff Buckley, j'ai envie de vous emmener en fait en voyage ce soir. Fermez les yeux, petite anecdote musicale liée à la guitare, puisqu'on va écouter là dans un instant un guitare-voix, c'est-à-dire juste une voix, une guitare électrique, un peu de réverb, et c'est tout. Et vous allez voir que juste avec ça, on peut faire quelque chose d'absolument génial. On est en fait à l'époque en 1993, si je dis pas de bêtises. Jeff Buckley, il est sur le point de sortir son seul et unique album, et l'album qui le révélera un petit peu au monde entier, qui s'appelle Grace, avec la chanson du même nom qui est très connue, dans lequel on entendra aussi Alléluia. Mais en fait, ça fait quelque temps qu'il a signé chez Columbia, qui va produire son disque. Ça fait quelque temps qu'il est connu, notamment à New York et dans les bars. En fait, il fait la tournée des bars. En plus, il a un nom assez célèbre, puisque c'est le fils de Tim Buckley, même s'il a jamais connu son père, mais bon, voilà, les gens le situent un petit peu musicalement. Lui, il fait ses trucs dans son coin, et il est génial. C'est vraiment à l'époque, il faut voir ça, on a des témoignages de l'époque. Il est hallucinant, et là, pour le coup, c'est plus que Jimi Hendrix, c'est-à-dire les gens, il vous fait taire une salle, un restaurant entier en 4 secondes. C'est assez hallucinant, il a un rapport avec la guitare, une émotion, et lui, c'est surtout l'interprétation de la voix. Certes, on parle de la guitare, mais c'est surtout la voix, il réinterprète des chansons, il se rapproprie des chansons. Et quand il arrive à New York pour enregistrer des petites chansons, des petits titres comme ça pour Columbia, lui qui est un anxieux de nature, il pense qu'en fait on va le virer, il pense qu'on lui fait un test de la dernière chance, qu'on veut écouter ses chansons, mais juste pour être bien sûr que c'est pas un imposteur, vous voyez un peu le syndrome de l'imposteur. Et donc il monte dans le studio, et dans le studio on lui présente voilà, studio de Columbia, donc il y a plein d'instruments pas possible, incroyable, et il y a une Fender Stratocaster qui est d'un modèle ultra, ultra rare, ultra iconique, qu'il avait quasiment jamais vu en vrai d'ailleurs. Il se dit bah tiens, je vais utiliser ça. Il branche, on allume le micro, on allume l'ampli de la guitare, on le prépare, t'es prêt, ok. Ils appuient sur record et là ils touchent à rien. Ils mettent juste un peu de réverb surtout. Ils touchent absolument à rien. Et donc on va l'entendre dans quelques instants. On va l'entendre juste. Il vient de finir d'accorder la guitare à peine. Il touche un peu, il voit que ça suffit. Donc il fait quelques petites notes aiguës. On va entendre un petit twing de nous, un petit truc comme ça. Et là il commence à chanter. Et vraiment, je vous assure qu'ils n'ont touché à rien. Et c'est un chef-d'œuvre absolu. C'est une reprise de Bob Dylan de 66 qui a du coup son âge, puisqu'il est né en 66, Jeff Buckley. Ça s'appelle Just Like a Woman. Et alors la chanson de Dylan, elle est bien. Mais la reprise de Jeff Buckley, c'est comme certains diraient ça aussi d'Alléluia. Mais la reprise de Jeff Buckley est absolument monstrueuse.
Et ça fait quand même plusieurs fois que Bob Dylan se fait piquer des reprises entre guillemets. Jimi Hendrix avait aussi pareil avec All Along the Watchtower
et plein d'autres hein,
et sûrement plein d'autres, mais ça en fait au moins deux. On pourrait faire une émission là-dessus d'ailleurs.
Jeff Buckley, Just Like a Woman, écoutez-moi ça, l'amour de la guitare. Thank you.
night as I stand inside the rain. Everybody knows the baby's got no clothes, but lately I've seen her ribbons and her bows have fallen from her curls as she takes just like a woman. Yes, and she makes love just like a woman. Oh, and she aches just like a woman. But she breathes just like a little girl. Queen Mary, she's my friend. So I believe I'll go see her again. Nobody has to guess, the baby can't be blessed till she finally sees that she's like all the rest, with her fog, her amphetamines, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she does, and she makes love just like a woman. Yeah, she aches just like a woman, but she breathes just like a little girl. Well, it was raining from the first, and I was dying there of thirst. So I came in here. And your long time curse hurts, but what's worse is all this pain here. I can't stay in here. Oh baby, ain't it clear that I just can't feel? I believe it's time for us to quit. When we meet again, introduced as friends, please don't you let on that you knew me when I was hungry and it was your world. Oh, you fake just like a woman. Yes, you do, and you make love just like a woman, and then you ache just like a woman, but you breathe just like a little girl. She breathes just like a little girl.
Recuerdos de la Alhambra, c'est de Francisco Tárrega. C'est un compositeur espagnol de la fin du 19e siècle. Il a composé ça en 1899 et c'est une des plus vieilles chansons du répertoire espagnol. Il l'a composé, lui, en grande partie. Il y a certaines bribes qui sont volontairement empruntées à des répertoires beaucoup plus anciens qu'il est très compliqué de dater. C'est à la fois une preuve du savoir-faire de l'époque des compositeurs en matière de guitare et c'est aussi un hommage à la culture de la guitare qu'il y a en Espagne. On a tous les clichés du flamenco, on peut avoir le cliché du fado aussi au Portugal, mais c'est une culture qui est très ancrée, très dense, très vive et qu'il faut écouter aussi, qui est très diverse et qui s'est construite au cours des siècles et qu'il faut absolument écouter le fado et le mieux, j'y serai en décembre, c'est d'aller l'écouter en vrai à Lisbonne, le fado où il se joue le mieux dans le quartier de l'Alfama.
La chance.
Voilà, vous avez
emmène Ghislain avec toi parce que là il nous a écouté, il était très fan.
Là, je pense qu'on a marqué des points.
Il est venu dans le studio et tout. Là,
notre programmateur musical est aux anges ce soir. Et je propose qu'on continue. Alors là, on change d'époque, de pays, de style, d'âge. On fait un rebond total. Et on va chercher un titre de Police. C'est Every Little Thing She Does Is Magic. Et ça, c'est Mélissa qui nous propose.
Oui, direction les années 80, puisque c'est un titre qui est sorti en 1981 à l'occasion du 4e album de The Police, qui s'intitule Ghost in the Machine, et on dit The Police, alors je vais pas dire The Police tout le temps parce que c'est un peu relou, donc je vais juste dire Police pour des raisons.
Tu peux dire Sting parce que c'est quand même beaucoup lui qui est à l'origine de cette chanson.
Et justement, j'allais parler de Sting, qui d'ailleurs avait créé cette chanson avant même la formation de Police, donc c'était en 76, il avait fait une démo de cette chanson qu'il appréciait beaucoup, mais qu'il trouvait peut-être trop soft par rapport à l'image de Police, qui est un groupe de rock, punk, qui décoiffe.
Alors qu'elle est tellement pas soft, les paroles sont très hardcore, c'est terrible, c'est une tragédie.
Oui, c'est une tragédie d'ailleurs, il y a le mot tragique dans la chanson qui revient très souvent parce que c'est le mot qui rime avec magic, pour faire écho au titre. Et pour la petite anecdote, Sting avait pas mal galéré à arranger cette chanson et à finir la composition musicale, et le seul mot qu'il avait trouvé qui rimait avec magic, c'était tragique. Donc il a dû opter pour ça, il avait trouvé un autre mot qui s'était palégique, mais en fait ça faisait par rapport avec l'océan qui était dans le mouvement, donc ça n'avait pas trop de sens, ça collait pas trop. Et pour en revenir donc à la guitare, en fait à l'origine c'est une chanson qui a surtout été composée à la guitare, et il n'était pas tout à fait satisfait de cet arrangement final, donc il est allé chercher une connaissance à lui qui s'appelle Alain Rousset je crois, de mémoire, et il y a eu une petite guéguerre au sein du groupe Police pour que la chanson convienne à tout le monde, parce que Summers, le guitariste du groupe, trouvait que l'arrangement qui avait été apporté par ce mec qu'ils sont allés chercher, qui est un pianiste et qui fait du synthé, enfin qui était très réputé dans le domaine, il disait mais moi je suis guitariste de Police et c'est quoi cet arrangement de merde, pour être trivial, qui a été sorti. Et finalement tout s'est bien terminé puisque maintenant on connaît tous Every Little Thing She Does Is Magic, et ils ont pu trouver l'arrangement qui convenait à tout le monde, avec une partie guitare qui se synchronise très bien, je trouve, avec la partie piano, et donc la guéguerre entre la guitare et le piano a pu être résolue. Et cette chanson qui moi je trouve est plutôt caractérise bien Police, même si à l'origine ça pouvait un peu détonner dans le style, mais qui en tout cas est tout à fait en osmose avec ce quatrième album qui est très tourné vers un style différent, vers quelque chose d'un peu plus métaphysique et plus post-punk, et un peu avec des vibes reggae aussi, Police puise beaucoup dans le reggae. Du coup, voilà, ça a donné ce titre que j'affectionne tout particulièrement et que j'avais découvert par Loïc. Je fais une petite dédicace à Loïc.
M'étonne pas, je sais qu'il adore cette chanson. Ouais.
Et du coup, qu'on peut écouter.
There's a light that's shining now, and a calm wind in the pine, for the fate of a fearsome travesty seems to have forgotten me, seems to have forgotten me. If it hasn't learned by now where I've hid so very long, I'll come safely out into the silence found in the wake of its passing on, in the wake of its passing on. A smarting smile and westward stare hold a promise in the air. That's the way they used to find their own way home, by the stars on their own, by the stars on their own. While I pray for a promised land to replace all I have made, darkness steals the light I bear, and the hope of a lifetime fades, the hope of a lifetime fades. Quiet peace I found, freedom comes from being unafraid of the heartache that can plague a man, the heartache that can plague a man. A Spartan smile and westward stare hold a promise in the air. That's the way they used to find their own stars on their own, by the stars on their own.
Hope of Lifetime, c'est des Milk Carton Kids. C'est toi, Lucien, qui nous propose dans cette version live. Et en off, tu nous as dit, vous voulez de la guitare? Ben là, vous avez de la guitare.
Bah ouais, ça se passe de commentaires, je crois, des performances comme ça. Puisque c'est tout simplement Kenneth Pattingale qu'on entendait en soliste et qui chantait en même temps aux côtés de son meilleur ami Joe Ryan, qui lui fait la petite guitare rythmique qu'on entendait. Alors on a l'impression d'entendre trois guitares, mais il y a bien juste une guitare un peu rythmique qui fait les accords et la guitare par-dessus qui intercale 10 000 notes au milieu de tout ça, puisque les Milk Carton Kids, c'est donc un duo américain de folk qui, là, on les écoutait à l'instant en live en 2013, après la sortie de leur album The Ash and Clay, qu'on avait playlisté d'ailleurs ici sur Campus à l'époque. Ils ont fait une tournée qui a donné naissance à l'album live dont on vient d'entendre un extrait. C'est à voir en concert d'ailleurs ce duo là, les deux, puisqu'en fait, comme je le disais là aussi hors antenne, ils ont l'habitude de rigoler un peu, ils ont un humour très pince sans rire. Joe Ryan, c'est un très grand, pour ceux qui connaissent Big Bang Theory, c'est littéralement Sheldon en fait, avec des cheveux longs. C'est Sheldon avec des cheveux longs, il a le même humour, la même façon de parler. Et à côté de ça, il y a Kenneth Pattingale, dont on dirait que c'est Paul Simon. Il fait la même taille, il écrit pareil, il joue de la guitare pareil. Il a un petit foulard sur sa guitare, enfin vraiment, ils ont un look particulier. Et ils sont très très drôles, ils ont un humour très pince sans rire où ils s'envoient des fions l'un à l'autre comme s'ils se détestaient alors que c'est les meilleurs amis du monde. Dès qu'ils finissent leur sketch, t'es mort de rire, donc d'un coup t'es un peu perdu, t'as l'impression d'être devant un spectacle de Ken Kojandi. Et d'un coup ils font ça. Et donc du coup, en termes de spectacle, c'est hyper déroutant parce que tu viens de te marrer. soirée, tu viens d'avoir l'impression d'être un one man show, et d'un coup t'as ce truc de guitare complètement fou, et t'es choqué, collé à son siège, et donc tout le monde applaudit, et derrière il commence, et vas-y que je fais des blagues et tout ça, et donc voilà, vraiment c'est un truc à voir. Et donc c'est un guitariste exceptionnel, Kenneth Battingale.
Écoutez bien évidemment, et on va te laisser le micro Lucien, parce que le morceau suivant il est à toi aussi.
Ah bon?
Oui, Joséphine.
Eh non.
Ah non, c'est pas toi. Ah bah désolé.
Non, moi c'était mon dernier.
C'est moi.
Ah bah c'est de Mélissa. Très bon choix. Et alors du coup, je voulais faire une vanne sur la guitare et me moquer de toi Lucien, mais du coup je me moquais de Mélissa.
Joséphine.
Mais ah non, du tout. J'essaie de faire des trucs un peu plus haut niveau que ça maintenant.
Merci.
Mais alors c'est pas vraiment une vanne en plus, parce que c'est paradoxalement la basse moi qui m'était restée dans les oreilles plus que la guitare en elle-même, sauf si on dit que la basse est au fond une guitare, chose que personnellement en tant que bassiste je n'apprécierais pas trop.
Aïe, moi je rentre pas dans les clashs de conflits de guitare, de basse, pas assez connaisseuse pour ça. Mais pour la petite anecdote, hein, pour continuer sur la chanson, donc Joséphine de Chris Rea, qui est sortie en 85, je suis très années 80 aujourd'hui, et qui fait partie de l'album Shamrock Diaries. Je trouve que c'est un nom trop cool, ça sonne hyper glamour, ça sonne trop bien. Et alors à la basse, c'est une chanson que j'ai découverte sur Radio Campus, mais pas du tout dans la version originale. Moi j'avais découvert une version où la guitare était vraiment, alors là pour le coup, quasiment inexistante, puisque c'était un remix de Mad 3 for M3.
Sacrilège.
De Mad 3 for M3 et de Broken Summer. Et c'est ce remix que j'ai découvert qui est sorti en 2020 sur les ondes de Radio Campus et que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai écouté cette chanson, je l'ai mise dans ma playlist des coups de cœur, etc. pendant depuis 2 ans. Je l'écoute de temps en temps très régulièrement. Et un jour, dans la voiture avec mon ami Joris ici présent, j'entends Joséphine, mais c'est pas la même mélodie, c'est pas le même air. Il y a de la guitare là, cette fois pour le coup. Et je me dis, mais c'est la chanson que je connais, ils ont fait une reprise, ça se passe
aïe,
comment?
Aïe.
Et Joris qui est indigné, qui se dit, mais quoi, mais non, c'est Joséphine de Chris Rea, enfin, tu connais pas? Je dis, bah si, justement, moi je connais, regarde dans ma playlist et tout. Et il fait, mais non, ça n'a rien à voir, ça c'est l'original. Et donc j'ai pris le temps de me poser, d'écouter l'original qui est magnifique, je trouve. Alors j'ai toujours beaucoup d'affection, hein, bien sûr, pour le Joséphine que j'ai découvert en 2020, mais c'est vrai quand même que mon cœur penche beaucoup plus pour Joséphine de Chris Rea, que je vous propose tout de suite d'écouter avec de la guitare et de la basse.
Send you
La voici particulière de Chris Rea sur Radio Campus Bordeaux. Vous êtes à l'écoute des dernières minutes de Goodnight Bordeaux. C'était le titre Joséphine et je vous propose bien qu'on se quitte sur un dernier morceau. C'est Bloody Valentine et je sais plus qui l'a proposé. Il me semble que c'est Mélissa encore qui va encore ajouter un titre de plus dans la playlist de titres likés.
C'est moi. Alors juste pour préciser rapidement sur Joséphine, hein, la musique, on sait, ainsi que des histoires d'amour, de rupture, de lamentation, voilà. Et bien Joséphine, c'est la chanson la plus pure possible parce qu'elle a été composée à l'occasion de la naissance de la fille de Chris Rea. Donc voilà, en parlant de chansons d'amour, vous pouvez pas faire plus pur que ça. Et pour continuer sur les chansons d'amour, Bloody Valentine de Machine Gun Kelly. Alors ça peut faire lever les yeux au ciel, hein, de certaines personnes, Machine Gun Kelly, mais c'est quoi ce truc? Qui est ce personnage? Alors de base, c'est un rappeur et qui a complètement changé de style depuis 2-3 ans et qui maintenant est vraiment sur le pop rock punk et qui a un peu remis ce genre des années 2000. Hein, qui était très présent, je pense à Avril Lavigne par exemple, ou à toute cette flopée de chanteurs qui chantaient de manière un peu emo vintage, rock, en faisant mine d'être malheureux et de pleurer. Machine Gun Kelly, il a un peu remis ça au goût du jour, avec un album qui s'appelle Tickets to My Downfall, et Bloody Valentine, c'est le premier titre de cet album, et qui a vraiment cartonné. Moi j'ai beaucoup aimé, j'apprécie beaucoup plus le Machine Gun Kelly de maintenant que le Machine Gun Kelly rappeur. Et alors, c'est une chanson d'ailleurs qui avait gagné un prix au MTV Awards. Alors ça fait sourire pour les musiciens pur jus.
Alors, pas du tout.
Pas du tout.
Un MTV Awards, c'est gros. Hein.
Moi, ça me fait un peu marrer parce que j'ai un peu regardé la cérémonie et il y a un peu un côté kitsch,
oui, c'est
très
pop,
à l'américaine.
Ouais, c'est un peu organisé.
Mais pour la petite info, si vous aimez Bloody Valentine et que vous voulez continuer à écouter Machine Gun Kelly et sa guitare flamboyante rose, c'est vraiment un atout dans sa caractéristique en tant que chanteur. Il la met sur toutes ses pochettes, ouais, d'albums, dans tous ses clips, etc. Et bien Machine Gun Kelly est nommé aux Grammy Awards pour le meilleur album rock cette année. Donc moi, en tant que fangirl, je suis de joie. Oh my god, this is amazing. Donc voilà, je vous propose, je vais pas vous en dire plus, d'écouter Bloody Valentine, qui est une chanson pop rock, mais aussi en l'honneur de sa douce, qui est Megan Fox. Et voilà, ça déboîte, ça déchire. Moi, j'aime beaucoup.
Et sa douce, qui est effectivement pas des moindres. Je vous propose qu'on se quitte sur ce dernier morceau. On se retrouve, nous, le 8 décembre pour une première dans l'émission. Ce sera un hors-série, le 8 décembre, sur un groupe anglais bien connu qui a, petit indice, inauguré l'Arkea Arena à Bordeaux il n'y a pas si longtemps que ça, en 2018. Voilà. Et donc oui, je vous propose qu'on se retrouve à cette occasion-là. En attendant, vous pouvez nous retrouver en podcast sur notre SoundCloud et bientôt sur le site de Radio Campus Bordeaux. Et je mets à jour la playlist sur Spotify dès que possible. On se quitte donc sur ce dernier morceau, Bloody Valentine, et c'est de Machine Gun Kelly. À bientôt.
Salut. Like it'll happen.